Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une journée de grève qui débute un peu partout en France. De nombreux syndicats, associations, partis politiques appellent à la mobilisation. La CGT en avait pris l'initiative, mais voilà que l'argument convergence des luttes semble faire mouche. Analyse à suivre.
Emmanuel Macron préfère l'accès à la nationalité plutôt qu'au droit de vote pour les étrangers. Il l'a dit hier face aux élus et associations de régions parisiennes. Vous entendrez son explication et la réaction d'un représentant d'association.
Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur la mise en garde de l'ONU. Si la guerre commerciale entre Pékin et Washington dure, il faut s'attendre à un choc comme rarement l'économie mondiale en a subi, disent les experts.
Et puis, moins d'un an après la dissolution de l'ETA, le tribunal correctionnel de Paris commence à juger deux Basques espagnols. France Culture était à la première audience.
Dans un quart d'heure après ce journal, Frédéric Seyss se penchera dans son billet politique sur la proposition du ministre Gérald Darmanin. Et si l'État nous disait combien nous lui coûtons ? Elle était jusque-là mal à l'aise avec le mouvement des Gilets jaunes. La CGT compte sur la grève interprofessionnelle pour imprimer sa marque sur la crise sociale actuelle en France. Journée de mobilisation annoncée donc. Mais s'y sont associés les syndicats Sud et Solidaires, des partis politiques comme la France Insoumise, le Parti communiste français ou le NPA, des associations aussi du mouvement social, citons entre autres La Vérité pour Adama ou la Fondation Copernic, citons aussi certains Gilets jaunes qui s'associent à la mobilisation. Cela fait beaucoup d'appels. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
La CGT serait-elle dépassée par son propre mouvement ?
En tout cas, la CGT se trouve face à ses propres contradictions et difficultés avec le mouvement des Gilets jaunes. Elle est à la fois tentée de fédérer et de se féliciter d'une revendication partagée à plus de justice sociale. Et en même temps, elle est gênée par la diversité des Gilets jaunes. Si la CGT reste prudente et rechigne à définir une position nationale claire, c'est, explique Philippe Martinez, parce que le mouvement a des accointances politiques et des formes variées selon les territoires. La CGT s'inquiète en particulier de certaines proximités avec l'extrême droite. En somme, ce grand débat sur le bitume auquel la centrale appelle, elle l'imagine aujourd'hui avec des gilets jaunes, mais pas tous les gilets jaunes. Écoutez, Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT, responsable de l'activité revendicative, elle était hier l'invitée du journal de 22h sur France Culture.
Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de coordination nationale, donc nous, au niveau national, on n'a pas d'interlocuteur, et puis il y a des endroits où les gilets jaunes ne portent pas des valeurs compatibles avec la CGT. Et je pense en particulier les questions liées à l'extrême droite, notamment au racisme, à la haine des travailleurs étrangers, puisque la CGT est le seul syndicat qui organise les travailleurs sans papier en France.
Même réticence et prise de distance au niveau national de la CFDT et de FO.
Alors en revanche, Catherine, et je l'évoquais tout à l'heure, d'autres organisations récupèrent ce mouvement national. Elles sont plus claires, plus offensives. La convergence des luttes fonctionne-t-elle ?
Une partie de la gauche et du mouvement social l'espère et veut faire une alliance, une jonction en tout cas, pour reprendre leur terme. Ce qui a changé, explique Solidaire, c'est l'appel d'une partie des Gilets jaunes à se joindre à la mobilisation syndicale. Certaines organisations, voilà une occasion de lancer un mouvement d'ensemble durable et reconductible. Elle souligne un accord de fond sur l'objectif, une meilleure répartition des richesses. Or, il existe encore aujourd'hui de grandes différences dans la manière de l'exprimer entre des gilets jaunes qui réclament à Emmanuel Macron et au gouvernement plus de pouvoir d'achat et de justice sociale et des revendications syndicales comme une hausse des salaires qui, classiquement, s'adressent plus directement au patronat. Reste donc une inconnue, la capacité ou non à faire émerger aujourd'hui une grammaire, voire un discours commun.
Merci Catherine Pétillon du service économique et social de France Culture. Côté pratique, la journée pourrait donc être perturbée dans les transports, notamment les écoles et les services publics. Ce matin, déjà 200 à 300 manifestants bloquaient l'une des entrées du marché de Rungis au sud de Paris. Des slogans pour une justice sociale et fiscale dans les rues, donc, nous l'avons compris, et des échanges un peu plus techniques dans le cadre, cette fois, du grand débat national. Hier, Emmanuel Macron a encore passé 6 heures sur le terrain. Il était cette fois en région parisienne, dans l'Essonne, à Évry-Courcouronne, interrogé par des élus et des représentants d'associations. D'ailleurs, le chef de l'État a notamment annoncé un grand plan pour les petites associations pour, dit-il, compenser la suppression des contrats aidés en France. Retrouvant des accents de sa campagne électorale, Emmanuel Macron a balayé de nombreux sujets, préférant par exemple l'accès à la citoyenneté pour les étrangers plutôt que de leur accorder le droit de vote. Il s'en est expliqué.
Regardez dans quel état on est. Il y a tellement de gens qui ont le droit de voter, qui n'y vont pas. Donner le droit de vote aux étrangers, même aux élections locales, encore une fois, je lirai tout ce qui me remonte sur ce sujet, s'il y a des réflexions. Je crois que le sujet, c'est plutôt comment, pour toutes celles et ceux qui ont acquis la nationalité française ou qui l'ont depuis des générations et des générations, comment on s'assure qu'elles s'expriment à plein et qu'ils utilisent tous ces droits? Parce que quand je vois parfois le taux d'abstention à certaines élections, je me dis que la bataille, elle est plutôt là qu'à donner le droit de vote à ces mêmes élections, à ceux qui n'ont pas aujourd'hui.
Reconstruire la citoyenneté comme le préconise Emmanuel Macron, c'est justement l'objectif que s'est fixé l'association Empreinte Citoyenne. Pour son président Julien Goupil, le droit de vote des étrangers aux élections locales doit faire partie du processus.
Aujourd'hui, dans les plus de 1500 quartiers prioritaires en France, on a exigé l'installation de conseils citoyens. Et la problématique que nous rencontrons, puisqu'on accompagne plus d'une centaine de conseils citoyens aujourd'hui, c'est que, eh bien, on les fasse à des habitants que l'on stimule dans leur citoyenneté, mais qui ne sont pas reconnus comme citoyens français. Il s'agit d'apporter aujourd'hui de la considération. C'est l'ultime bastion, la citoyenneté, qui peut construire cette cohésion nationale que l'on cherche tant.
Voilà pour les questions soulevées à l'occasion de ce que l'on appelle le grand débat national, des discussions qui inspirent, qui animent ou qui rebutent. Nous vous proposons ce matin d'aller en Irlande où grand débat et référendum sont utilisés depuis longtemps via une convention citoyenne puis une assemblée citoyenne en activité depuis 2016. Elles sont censées recommander la marche à suivre aux gouvernants, Éric Biegala.
Ces deux assemblées populaires ont été constituées de citoyens ordinaires. Le professeur David Farrell, qui dirige le département de sciences politiques de l'Université de Dublin, les assistait dans ce processus délibératif.
On a choisi les membres de ces assemblées au hasard. Il fallait simplement 50% d'hommes et 50% de femmes, qu'ils correspondent aux moyennes d'âge, d'origine géographique et de catégorie socio-professionnelle de la population. Pour la convention constitutionnelle, on a ainsi sélectionné 66 citoyens. L'autre caractéristique, c'était d'avoir des débats bien construits, des tables rondes animées par des professionnels, sachant organiser des débats respectueux de tous et de tous les points de vue.
Chaque week-end, pendant 4 à 5 mois, ces citoyens ont donc écouté les points de vue divers des uns et des autres sur telle ou telle question. La population dans son ensemble a pu suivre toutes ces sessions retransmises en direct sur le web. Finalement, assemblées ou conventions ont produit leurs recommandations. Certaines ont été suivies par le gouvernement et d'autres pas ou pas encore. Le principe de l'assemblée citoyenne ne fait pas partie des institutions de la République d'Irlande, mais pourrait bien un jour y figurer, estime David Farrell.
Au prochain projet de référendum sur une question compliquée, c'est là qu'on doit avoir une assemblée citoyenne pour informer l'électeur en amont. C'est ce que fait déjà l'État d'Oregon, par exemple. Ils ont une sorte d'assemblée citoyenne qui produit un condensé des enjeux du débat en une page, laquelle est adressée à tous les électeurs avant qu'ils ne s'expriment par référendum.
En Europe, la ville de Madrid ou la communauté germanophone de Belgique sont en passe d'instituer de semblables assemblées citoyennes permanentes, censées informer les élus et leur suggérer éventuellement quelques modifications législatives.
Et pendant que les citoyens et certains élus français découvrent donc ce type de débat à grande échelle, les députés, eux, discutent de la proposition de loi dite anti-casseurs. Elle sera soumise cet après-midi au vote solennel des députés en première lecture à l'Assemblée nationale. Et une vingtaine de députés de la majorité pourraient s'abstenir ou voter contre ce texte. Réponse du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur sa page Facebook hier soir. Ce texte, écrit-il, n'est pas liberticide. Au contraire, il assure la sauvegarde des libertés individuelles et il affirme la liberté de manifester. Fin de citation. Au chapitre des décisions politiques encore, la nouvelle prime d'activité relevée à 90 euros pour les bénéficiaires du SMIC. Cette prime revalorisée est versée aujourd'hui mardi. Elle concerne 700 000 nouveaux bénéficiaires qui se sont inscrits auprès de la caisse d'allocation familiale. Un incendie s'est déclaré cette nuit à Paris dans le 16e arrondissement. Incendie meurtrier, 8 personnes sont mortes, 30 ont été blessées, dont une grièvement. Le feu spectaculaire s'est déclaré au 7e et 8e étage d'un immeuble. Il est, ça y est, maîtrisé ce matin. Et à l'instant, le procureur de la République de Paris annonce que la thèse criminelle est privilégiée. Une habitante de l'immeuble a été interpellée. Elle est en garde à vue.
8h09 sur France Culture. La suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. L'Union européenne sera-t-elle la grande gagnante de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine?
À première vue, c'est ce qu'affirme l'ONU qui, via la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le développement et le commerce, qui donc estime que les mesures protectionnistes de Washington et de Pékin ont plombé leurs économies. Jérémy Lanche.
6%, c'est tout ce que les entreprises américaines ont récupéré sur les 250 milliards d'exportations chinoises soumises aux droits de douane. La quasi-totalité bénéficie à des compagnies étrangères. Les chiffres sont quasiment identiques pour les sanctions de Pékin sur les produits américains. Les entreprises chinoises ne captent qu'une infime partie de ces échanges. Le grand gagnant, ça pourrait donc être l'Union européenne, sommée de fournir des marchandises que Washington ne peut plus obtenir à bon prix en Chine et inversement. Les exportations européennes devraient augmenter de 70 milliards de dollars. A priori, la guerre commerciale a donc du bon pour l'Europe, mais attention à la gueule de bois, prévient la CNUSED. Elle pourrait arriver dès le 1er mars, date de l'entrée en vigueur de nouvelles barrières douanières américaines. Pamela Cook-Hamilton est directrice de la division du commerce international de la CNUSED.
Les répercussions vont être massives. Nous allons avoir un ralentissement économique, en particulier à cause de l'instabilité sur les marchés financiers et celui des matières premières. Les petites économies, plus sensibles aux chocs externes, vont être touchées. On doit également s'attendre à des guerres monétaire et à des dévaluations. Il y aura une hausse du chômage à cause d'une croissance au ralenti accompagnée d'une forte inflation et surtout il y a un risque de contagion car tous les pays vont vouloir rentrer dans la danse et imposer eux aussi des barrières douanières.
La joie pourrait être de courte durée donc pour l'Union européenne. D'après un économiste des Nations Unies, ce n'est peut-être pas la fin du monde qui se prépare, mais il faut s'attendre à un choc comme rarement l'économie mondiale en a subi.
Voilà pour les incertitudes économiques mondiales. C'est dire si la Grande-Bretagne doit s'inquiéter avec le Brexit notamment, qui préoccupe déjà de nombreuses entreprises étrangères, Sony, Airbus, Unilever pour ne citer qu'elles. Nissan également, le constructeur automobile, a annoncé ce week-end qu'il ne construira pas son modèle X-Trail. Il y a 2 ans et demi pourtant, Nissan avait reçu des garanties écrites qu'il n'y aurait pas d'impact. Finalement, ce modèle ne sera donc pas construit en Grande-Bretagne. Les précisions d'Antoine Gignot.
C'est une lettre écrite en octobre 2016, quelques mois après le résultat du référendum sur le Brexit. À l'époque, Carlos Ghosn, qui dirige Nissan, demande des garanties à l'État britannique avant de lancer de nouveaux investissements. Le ministre du Commerce lui répond par écrit « Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'investissement soit le plus facile et le plus enrichissant possible ». Il promet surtout de débloquer près de 70 millions d'euros de subventions pour encourager le groupe à construire son nouveau modèle de 4x4 de ville dans l'usine de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre. L'offre qui montre à quel point le gouvernement a tenté d'éviter la fuite des entreprises est restée secrète pendant 2 ans et demi. Elle est désormais caduque. Le X-Trail sera construit à Kyushu, au Japon, solution jugée moins risquée malgré les coûts d'acheminement. Un coup dur de plus pour l'industrie automobile britannique confrontée en 2018 à une chute de près de la moitié des investissements. Ce n'est que le début. Jaguar Land Rover annonce pour début avril une semaine d'arrêt de la production pour éviter les perturbations liées au Brexit. Toyota et BMW pourraient faire de même en cas de sortie de l'Union européenne sans accord commercial.
Antoine Gignot depuis Londres pour France Culture. Nicolas Maduro semble de plus en plus isolé au Venezuela. Le groupe de Lima, qui réunit le Canada ainsi que 14 pays latino-américains, ce groupe demande à l'armée vénézuélienne de se ranger derrière l'opposant Juan Guaido. Ce dernier est déjà reconnu comme président par intérim par 19 pays européens, dont la France, et ce dans l'attente d'une nouvelle présidentielle. Deux Basques espagnols sont jugés à Paris au tribunal correctionnel depuis hier, et cela moins d'un an après la dissolution officielle de l'ETA, l'organisation armée basque indépendantiste. Un homme et une femme, donc, comparaissent notamment pour association de malfaiteurs à visée terroriste et pour recel de financement du terrorisme. Compte rendu d'audience signé ce matin Florence Turm.
Face au tribunal, l'attitude des deux prévenus tranche avec le mutisme généralement adopté par les autres militants basques jugés en France. Ils expliquent avoir été tous les deux missionnés par ETA pour organiser le processus de paix. C'est ça l'important, insiste Iratxe Sorsabal. Brune, cheveux noirs ondulés, bras croisés dans le box, elle affirme d'une voix ferme « Oui, j'ai été militante d'ETA, mais je ne veux pas donner davantage de renseignements ». Tous deux ont été arrêtés en septembre 2015 dans un gîte des Pyrénées où ils devaient retrouver un ancien militants de l'organisation. Mais puisque Théa avait déjà annoncé son intention de déposer les armes, comment expliquer ces deux Smith & Wesson et les cartouches trouvées en votre possession, interroge le président. Il y avait une exception, répond David Place, si un membre de Théa était attaqué ou si sa vie était en danger. Mêmes interrogations et mêmes réponses elliptiques pour la vingtaine de faux documents d'identité découverts, une carte à puce de la garde civile espagnole, une autre du ministère de la Défense. normal quand on vit dans la clandestinité. Et que pensez-vous des attentats et des assassinats commis par ETA ? Intervient le procureur. Iratxe Sorsabal redresse la tête. J'assume toutes les décisions. Nous aurions aimé ne pas avoir eu à utiliser la lutte armée. On est bien sûr désolé de tout le mal que l'on a causé pour l'ensemble des victimes, ajoute-t-elle, comme on l'a déjà dit publiquement.
Et notons qu'au total, 853 morts sont imputés à l'ETA en 40 ans de lutte armée. Le pays coupé en deux par Météo France ce mardi. Sur la partie est, le temps s'annonce largement ensoleillé. Gris et humide en revanche sur l'ouest de la France avec de la pluie qui arrive par la Bretagne et par les Pyrénées. Et comptez ce matin moins 2 degrés à Chambéry, 1 à Strasbourg, 3 degrés à Lille, Paris, Clermont, 9 à Brest et Bordeaux, 10 degrés à Perpignan.